Toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien fait, 14h ici à Paris, midi en temps universel.
RFI Midi.
Et le Grand Journal International avec Charlotte de Rouen. Bonjour Charlotte.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. On reviendra très largement dans cette édition sur le sommet des BRICS qui se tient à Kazan, en Russie. Un rendez-vous dont l'objet est clair pour Vladimir Poutine. Montrer au monde que la Russie n'est pas isolée, un pied de nez aux Occidentaux et leur politique. La Russie, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi sur les agents de l'étranger, une loi qui vise, selon la Cour, à punir et intimider. L'armée israélienne lance un nouvel appel à l'évacuation des habitants de la banlieue sud de Beyrouth. La situation au Proche-Orient s'est invitée aujourd'hui dans les débats au Parlement européen à Strasbourg. Des tirs à balles réels de l'armée chinoise ce mardi à une centaine de kilomètres de Taïwan. Des exercices qui interviennent une semaine jour pour jour après des manœuvres d'encerclement à grande échelle de l'île. Une menace pour la stabilité régionale, selon Taipei. Ce rebond en Europe des ventes de voitures électriques, une bonne nouvelle pour les États européens pour tenter d'atteindre leurs objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
RFI Midi.
La Russie accueille le sommet des BRICS à Kazan.
C'est la plus grande réunion diplomatique qui se tient en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Le président russe reçoit une vingtaine de dirigeants étrangers. On vous retrouve sur place, Anissa El-Jabri. Anissa, pour Vladimir Poutine, c'est l'occasion de montrer que la Russie n'est pas isolée.
En tout cas, d'essayer de le faire, on le constate ici de manière très concrète. Hein. L'ouverture et la photo officielle sont en réalité ce soir, mais la télévision d'État depuis ce matin montre très longuement les arrivées de chacun des chefs d'État, leur accueil sur tapis rouge, sur le tarmac de l'aéroport. Et le chef de l'État russe a déjà commencé à rencontrer certains d'entre eux. Là aussi, le début de certaines de ces rencontres est filmé, longuement montré sur les écrans russes. Vladimir Poutine tient très visiblement à apparaître aux yeux de l'opinion intérieure comme un chef d'orchestre diplomatique. Quelques minutes donc avec Narendra Modi, le Premier ministre indien, il y a environ 1h30. Quelques minutes aussi en fin de matinée ici avec Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil et surtout aujourd'hui présidente de la nouvelle Banque de Développement. C'est en quelque sorte la Banque des BRICS. Première rencontre télévisée à Kazan et Vladimir Poutine y a notamment déclaré, je cite, qu'une augmentation des règlements en devise nationale permet, selon lui, de minimiser les risques politiques extérieurs. Et en fait, Vladimir Poutine faisait la référence à sa volonté d'avancer pour la mise en place d'un système de paiement alternatif, une concurrence en fait au système SWIFT dont les banques russes sont exclues, vous le savez, depuis les sanctions occidentales.
Anissa El-Jabri en direct ce midi sur RFI. Les BRICS qui se veulent comme une alternative, vous le disiez, une alternative diplomatique et économique au bloc occidental. L'Alliance a accueilli au début de l'année l'Éthiopie, l'Égypte ou encore l'Iran. Elle pèse désormais près de 30% de la richesse mondiale et 45% de la population. Si l'idée d'une monnaie unique a été évoquée pour réduire la dépendance des pays membres au dollar, elle paraît encore assez prématurée, Nathanaël Vitran.
La création d'une monnaie unique interno-BRICS, inimaginable sans union économique préalable et sans projet politique pour Bruno Cabriac, directeur général de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe aucune alternative.
Ce qui pourrait être fait, c'est éventuellement une monnaie composite qui ne serait pas une vraie monnaie commune, mais qui serait une monnaie de réserve. Et ça, c'est important parce que ça permet d'essayer d'échapper aux sanctions américaines.
L'économiste Alexandre Kateb pense, lui, que les BRICS pourraient s'appuyer sur les crypto-monnaies.
Aujourd'hui, on peut échanger, par exemple, du rouble contre du yuan sans passer par le dollar. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur ces avancées technologiques qui utilisent notamment la blockchain et les monnaies digitales pour construire un système beaucoup plus cohérent avec des institutions, avec un certain nombre de standards techniques, etc., qui pourrait constituer une alternative par le bas au rôle du dollar.
Si la dédollarisation de l'économie mondiale est dans l'air du temps, Vladimir Poutine lui-même a reconnu en amont du sommet de Kazan qu'une monnaie unique n'était pas à l'ordre du du jour.
Nathanaël Vitran.
Et on revient sur ce sommet des BRICS avec notre invité dans une poignée de minutes dans RFI Midi. Sommet qui se déroule à Kazan en Russie. La Russie précisément condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi relative aux agents de l'étranger.
La CEDH épingle le régime du Kremlin pour cette loi adoptée en 2012. Elle juge qu'elle est arbitraire et qu'elle crée un climat de méfiance. Julien Chavanne.
Stigmatisante, trompeuse et trop imprévisible. Le constat de la CEDH est implacable. La loi russe sur les agents de l'étranger ne vise qu'à punir et intimider, écrivent les juges européens qui dénoncent une vraie menace pour la liberté d'expression. La Cour avait été saisie par une centaine d'ONG, de médias et de membres de la société civile russe, tous obligés depuis 2012 de s'inscrire comme des agents étrangers, une étiquette synonyme d'inspection, d'amende et de restriction de leurs activités. Et c'est pire pour ceux qui ne se déclarent pas. Le chercheur français Laurent Vinatier a été condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Il y a 2 ans, la justice européenne avait déjà reconnu que cette loi violait la Convention européenne des droits de l'homme sans effet. De toute façon, la Russie a été exclue de la CEDH après l'invasion de l'Ukraine. Moscou avait alors décidé de ne plus appliquer les décisions de cette cour.
Et les avocats du français Laurent Vinatier, justement, ont fait appel. Âgé de 48 ans, on le rappelle, ce français spécialiste de l'Union soviétique travaille pour le Centre de dialogue humanitaire, une organisation basée en Suisse et qui œuvre à la prévention des conflits armés. Et puis notez par ailleurs qu'en Ukraine, aujourd'hui, 3 civils, dont un enfant, ont été tués dans une attaque de drones russes à Soumy, dans le nord-est du pays. Les négociations de paix avec la Russie dépendront de la présidentielle américaine, a dit aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu avec un groupe de journalistes.
RFI, il est 14h07 à Paris, 15h07 à Beyrouth, au Liban. 13 morts et 57 blessés dans une frappe israélienne près d'un hôpital de la capitale.
Sur le site de la frappe, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes dans les décombres. L'agence de presse libanaise rapporte par ailleurs de nouveaux bombardements aujourd'hui aux abords de Tyr dans le sud après un appel à évacuer émis par l'armée israélienne. De son côté, le Hezbollah dit avoir tiré des roquettes sur une base navale et une base du renseignement près de Tel Aviv. Le mouvement dit aussi que plusieurs de ses combattants ont été capturés par l'armée israélienne sans préciser leur nombre.
La situation au Proche-Orient qui s'est invitée dans les débats au Parlement européen à Strasbourg.
Les eurodéputés ont échangé ce matin sur les derniers développements de la situation sur place, s'inquiétant notamment du sort des soldats de la force de protection de l'ONU dont les positions ont été touchées à plusieurs reprises par l'armée israélienne. Laurent Castillo, le président de la commission en charge des pays du Machrek, est intervenu ce matin à la tribune. Il appelle à mettre fin aux hostilités.
Le Liban est un pays frère, un pays cousin de la France qui vit depuis des années un drame politique, un drame humain, et ces dernières attaques sont pour nous inacceptables. Si Israël a le droit de se défendre, le Liban ne peut pas accepter une agression et les forces de l'ONU non plus. Aujourd'hui, les soldats de la FINUL sont là pour la paix, et un pays ne peut pas comme ça attaquer les soldats de la FINUL. Il y a des limites et le respect du droit international. Il y a des conséquences humanitaires aujourd'hui. On voit réapparaître du choléra. Le Parlement ne peut qu'être à côté du peuple libanais et nous avons appelé avant tout à la paix dans ce contexte très particulier du Liban.
Laurent Castillo, le président de la commission en charge des pays du Machrek au Parlement européen. Le secrétaire d'État américain, lui, est de nouveau au Proche-Orient. 11e voyage dans la région pour Anthony Blinken depuis les débuts de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, toujours en quête d'un cessez-le-feu, il veut capitaliser cette fois sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne la semaine dernière.
L'armée chinoise a mené ce mardi des exercices avec des tirs à munitions réelles à une centaine de kilomètres seulement de Taïwan.
Une semaine jour pour jour après des manœuvres d'encerclement à grande échelle qui ont mobilisé un nombre record d'avions et de navires autour de l'île. Cette nouvelle démonstration de force de Pékin est qualifiée par Taipei de menace pour la stabilité régionale. Les précisions de Yelena Tomic.
Les exercices avec des tirs à munitions réelles ont duré 4 heures dans une zone d'environ 150 km² et à seulement une centaine de kilomètres des côtes taïwanaises. Mardi dernier, selon les termes du commandant de la flotte militaire taïwanaise, l'amiral Tang, l'armée chinoise avait usé d'une stratégie de l'anaconda pour étouffer l'île. L'opération visait à démontrer à Taipei, mais aussi à son soutien principal, Washington, que Pékin était en mesure d'imposer un blocus en un temps record et de prendre le contrôle de l'île par la force si nécessaire. Face à un nouveau président taïwanais considéré comme séparatiste, Pékin joue la carte de la coercition militaire. Ne laisser aucun répit aux autorités politiques et militaires. Dans ce contexte, Taïwan a récemment et pour la première fois fait étalage de ses propres moyens de dissuasion, des missiles anti-navires et anti-défense aérienne. Parallèlement, l'armée américaine, tout en resserrant ses alliances avec Tokyo et Manille, ne cesse de renforcer ses capacités de surveillance et d'intervention à proximité de l'île.
Yelena Tomic, en Haïti, 2 morts et 5 000 déplacés après des attaques de gangs à Port-au-Prince. Les victimes sont 2 femmes. L'une d'elles était enceinte de 8 mois. Elles ont été tuées dans le quartier de Solino, à l'intérieur de leur maison. Les attaques se sont poursuivies hier après-midi. Des maisons et des véhicules ont été incendiés. À Cuba, 6 morts après le passage de l'ouragan Oscar dans l'est du pays, dans la province de Guantanamo. L'ouragan qui a touché terre dimanche soir avec des vents approchant les 130 km/h avant d'être rétrogradé en tempête tropicale et de s'éloigner hier de l'île. Et l'électricité revient progressivement à Cuba après la panne qui a touché la centrale électrique vendredi.
En Europe, Charlotte de Rouen, on en vient à ce rebond qui était espéré en tout cas.
Oui, après des mois de baisse, les ventes de voitures électriques sont reparties à la hausse le mois dernier. Il faudra encore confirmer cette tendance dans les mois à venir, mais enrayer cette baisse, c'était une étape essentielle en vue de l'électrification du parc automobile, ce que visent à terme les États membres de l'Union, Simon Rosé.
Près d'une voiture 9 sur 5 vendue en Europe en septembre était électrique. Certes, on est loin de la Chine où elle représente plus de la moitié du marché, mais les constructeurs européens sauront s'en contenter après des mois et des mois de baisse qui ont marqué un véritable coup d'arrêt à la transition électrique du parc automobile. L'Union européenne a pourtant besoin de la réussir, cette transition, pour tenir ses objectifs climatiques. Les voitures représentent à elles seules près de 15% des émissions de gaz à effet de serre du continent. L'objectif, c'est de les éliminer presque entièrement en 2050, impossible sans avoir recours massivement aux véhicules électriques. Malgré ce rebond des ventes, le secteur fait donc toujours grise mine, les niveaux sont toujours faibles, loin du marché florissant dont l'Europe a besoin, juge le lobby des constructeurs, alors que l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique est toujours prévue pour 2035. On notera tout de même que pour la première fois, les véhicules hybrides se sont mieux vendus en septembre que ceux à essence. Cette technologie est désormais la première du marché.
Et Simon Rosé, en France, alors que tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale où l'examen du budget a démarré hier soir, une autre bataille se joue un peu plus discrètement au Palais Bourbon. Un vote aura lieu aujourd'hui pour désigner le ou la remplaçante d'Annie Genevard à l'une des 6 vice-présidences de l'Assemblée. Annie Genevard qui a été nommée ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Michel Barnier. L'élection de son ou sa successeur aura donc lieu cet après-midi, juste après les questions au gouvernement, l'Assemblée nationale où vous vous trouvez, Charlotte Urien-Tomaka. Et ce vote, c'est un vote entre psychodrame et petit calcul politique.
Oui, sur la ligne de départ, ils sont 4, mais la favorite pour remplacer Annie Genevard, c'est sa collègue députée LR, Virginie Duby-Muller, à condition que l'accord entre Gabriel Attal, aujourd'hui président du groupe macroniste à l'Assemblée, et Laurent Wauquiez, chef du groupe LR, ne vole pas en éclats. Un accord scellé en juillet dernier pour faire réélire Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, mais qui a aujourd'hui du plomb dans l'aile depuis que Laurent Wauquiez a décidé de priver le groupe macroniste de la présidence de la commission des affaires économiques, quitte à faire élire une mélenchoniste, l'insoumise Aurélie Trouvé. Et dans ce contexte, le bloc central se divise également, puisque le groupe Modem a décidé de présenter un candidat à cette élection, Christophe Blanchet, député Modem, puisque les troupes de François Bayrou s'estiment lésées dans la répartition des postes clés à l'Assemblée. Les députés du groupe de Gabriel Attal devront donc choisir entre le candidat du bloc central et celle des LR, tout cela au risque de faire élire le candidat commun désigné ce mardi par le NFP, le député écologiste Jérémy Yordanov. Et le RN jouera lui aussi un rôle, puisque privé de fonctions stratégiques par la gauche et les macronistes en juillet dernier, dernier alors qu'ils occupaient deux vice-présidences dans la précédente législature. Le RN compte aussi présenter son candidat, le député Johan Gilert. Réponse donc cet après-midi à l'Assemblée.
Charlotte Urien, Thomas K. Un dernier mot de culture. Les quatre finalistes du Goncourt sont désormais connus. Sont retenus l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud pour son roman Ouri, Jacques Aranda du franco-rwandais Gaël Faye, Madeleine Avant l'aube de Sandrine Collette et puis Archipel d'Hélène Gaudy. Le Goncourt doit être décerné le 4 novembre.
Et on évoquera justement lorsque le prix Goncourt sera décerné, on l'évoquera évidemment sur RFI. C'était le journal avec vous, Charlotte de Rouen. Merci beaucoup Charlotte. Il est 14h15 ici à Paris. Et toute actualité sportive dans RFI Midi avec Florence Valmé. Bonjour Florence.
Bonjour Stéphane.
Et en football, la Ligue des Champions est de retour. Troisième journée, deux des quatre clubs français engagés jouent d'ailleurs ce soir, notamment Monaco.
Les Monégasques, 14e de cette nouvelle formule à 36 clubs, reçoivent en début de soirée les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade, équipe plutôt mal classée actuellement. Les joueurs d'Adi Hütter ont jusqu'à présent très bien négocié les deux premières journées avec une victoire contre le FC Barcelone et un match nul à Zagreb face au Dynamo. Écoutez l'entraîneur monégasque Adi Hütter.
Gagner ce match, ça n'est pas encore fait. Mais si nous le perdons, ça ne sera pas fini. Il nous restera 5 rencontres. Mais il est vrai que dans cette formule championnat, un succès nous mettrait en très bonne position pour nous qualifier pour le tour suivant. Quand on est capable de battre Barcelone comme on l'a fait, on peut se dire qu'on sera capable de gagner chez nous contre Benfica ou Aston Villa. Et là, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade que nous accueillons. Une équipe qui a perdu ses deux premiers matchs. À nous de rester concentrés et de faire la meilleure performance possible.
Monaco Étoile Rouge de Belgrade, c'est ce soir à partir de 16h45, temps universel.
Et juste après, ce sera le PSG face au PSV Eindhoven, coup d'envoi 19h, temps universel.
Une belle occasion pour le club parisien de retrouver la victoire pour l'instant. Avec un succès et une défaite, le bilan n'est pas reluisant, reconnaît Lee Kang-in.
Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer et je suis sûr qu'on va le faire. En football, on peut toujours avoir cet objectif. Moi, comme tous les joueurs, le staff technique, on est tourné vers l'idée de remporter chaque match. Je pense d'ailleurs que toutes les rencontres du PSG sont importantes. Le championnat, la coupe, mais évidemment la Ligue des Champions. Chaque match est une finale pour nous. On va faire de notre mieux pour prendre les 3 points contre le PSV.
PSG, PSV Eindhoven à partir de 19h TU. À noter que la rencontre a été classée à haut risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Les supporters néerlandais devraient renoncer à tout déplacement officiel si l'on en croit le communiqué du club publié dimanche soir.
Et puis un mot de Ligue 1, Florence, avec Jean-Louis Gasset qui serait sur le point de s'engager avec Montpellier.
Une information, l'équipe qui devrait être officialisée dans les prochaines heures. Le bruit courait depuis hier suite au limogeage de Michel Derzakarian dimanche soir après la lourde défaite à domicile face à Marseille, 5-0. Jean-Louis Gasset, qui a été entraîneur notamment de la Côte d'Ivoire et de Marseille, est appelé à la rescousse pour relancer le club en championnat. Montpellier est actuellement dernier. L'entraîneur de 70 ans qui connaît bien le MHSC, c'est son père Bernard Gasset qui a cofondé le club avec Louis Nicolin il y a 50 ans.
Et puis, c'est le grand jour pour les passionnés de basket. Aux États-Unis, la saison de NBA débute ce soir.
30 équipes de la ligue la plus prestigieuse du monde vont tenter de se qualifier pour les phases finales qui auront lieu au printemps prochain. Le match d'ouverture oppose les Boston Celtics, champions en titre, aux New York Knicks. Dans l'autre rencontre du jour, Minnesota aura pour adversaire les Los Angeles Lakers, équipe de LeBron James. Après avoir remporté les JO avec les États-Unis, l'ailier américain qui fêtera bientôt ses 40 ans entame une 22e saison en NBA, la première aux côtés de son fils Bronny, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue, ce qui le réjouit particulièrement.
C'est un pur bonheur, pour être honnête, de pouvoir venir tous les jours travailler avec son fils et de pouvoir le voir continuer à grandir. Nous nous poussons mutuellement, il me pousse, je le pousse, c'est vraiment stimulant. C'est un moment très réjouissant, non seulement pour moi, mais aussi pour notre famille. Cela donne beaucoup d'énergie d'être l'un à côté de l'autre. Il a 20 ans et avec les autres jeunes, il donne un plus de vie à l'équipe, donc c'est vraiment formidable.
Guys on the team, so it's awesome. Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, c'est à 2h TU la nuit prochaine.
Et il faudra se coucher tard, donc merci beaucoup Florence Valmé. Toute l'actualité sportive, c'est quand vous le souhaitez sur RFI.fr, 14h19 ici à Paris.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
Stéphane Genest,
La Russie accueille jusqu'à demain le 16e sommet des BRICS. Les BRICS, c'est ce club économique fondé il y a 2 décennies par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais il y a des petits nouveaux. On passe donc au BRICS Plus avec l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Éthiopie. Le sommet, lui, se déroule à Kazan, en Russie. L'occasion donc pour Vladimir Poutine de montrer que son pays n'est pas isolé sur la scène internationale, cela malgré la guerre qu'il mène en Ukraine et les sanctions occidentales. On en parle avec vous, Alexandre Kateb. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, auteur du livre « Les nouvelles puissances mondiales », « Pourquoi les BRICS changent le monde » aux éditions Ellipse. Alors initialement, les BRICS, on le disait il y a quelques secondes, c'était un groupe avec une ambition économique, à savoir l'alliance des pays émergents face aux occidentaux. Aujourd'hui, la politique a supplanté l'économie. On est maintenant sur une alliance politique quand on parle des BRICS.
On est à la fois sur une alliance économique, ou en tout cas un club économique qui vise à avancer un certain nombre d'initiatives qui sont bénéfiques à tous les membres de ce groupement, et évidemment une dimension politique et géopolitique hein, qui est de plus en plus évidente aujourd'hui, et qui fait des BRICS quelque part le forum des puissances émergentes et du sud global et qui les érige de facto en position de principale force de dialogue avec les pays occidentaux sur un certain nombre de questions économiques, mais aussi géopolitiques.
Oui, parce que les BRICS, c'est 30% de la richesse mondiale, 45% de la population. C'est pour cela que les BRICS ont pris de l'importance ?
Oui, il y a cet effet volume qui est important. Il y a aussi évidemment la présence de très grandes puissances comme la Chine, mais aussi l'Inde et la Russie et le Brésil au sein de cet ensemble, donc qui sert de locomotive à l'ensemble des autres pays, et des complémentarités entre les pays qui sont exportateurs de matières premières, par exemple comme la Russie ou les Émirats Arabes Unis, et d'autre part des pays qui sont aujourd'hui à la frontière technologique comme la Chine.
Ce sommet des BRICS se tient à Kazan en Russie. Le Kremlin se flatte d'organiser l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie, hein, ce sont les mots du Kremlin. Est-ce qu'on peut y voir là un pied de nez aux Occidentaux censés démontrer l'échec de leur politique d'isolement contre Vladimir Poutine depuis l'offensive contre l'Ukraine ?
Absolument, je crois que ce sommet, la qualité des invités, le nombre de chefs d'État qui ont répondu à l'invitation, montre que Vladimir et Poutine est tout sauf isolé, et qu'en réalité, la plupart de ces chefs d'État aujourd'hui voient sur le terrain que la Russie a plutôt marqué des points, y compris dans son conflit avec l'Ukraine, et que quelque part il se projette dans l'après-guerre en Ukraine, et c'est avec la Russie qu'ils veulent construire ce monde d'après.
Et quel regard portent les Occidentaux sur ce sommet des BRICS et sur l'importance qu'on évoquait il y a quelques secondes de cette alliance ?
Il y a des réactions qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Dans l'ensemble, je dirais qu'il y a une sorte d'inconscience ou de négligence de la part des pays occidentaux, notamment si on pense aux États-Unis, qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe là et qui ont tendance à relativiser l'importance des discussions qui peuvent être conduites entre ces différentes puissances et qui voient pas que ça peut être vraiment le catalyseur d'une désoccidentalisation du monde avec des initiatives concrètes notamment qui risquent de menacer la toute-puissance du dollar mais également la toute-puissance du secteur technologique américain. Donc sur tous ces fronts, les BRICS sont en fait d'avancer discrètement mais sûrement, et c'est un projet à très long terme, ce n'est pas un projet à quelques mois ou quelques années.
Et justement, les BRICS sont de plus en plus nombreux, on parlait des BRICS initialement, depuis l'année dernière on parle des BRICS Plus, avec de nouveaux pays qui ont intégré cette alliance, et plus on s'élargit, plus on fait face à des problèmes de cohérence interne et de leadership. Il y a un risque, et c'est peut-être ça le principal danger pour ces BRICS.
En fait, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de leadership au sein de ce groupe, ou en tout cas, ça a été la ligne adoptée pour éviter justement ce genre de conflit ou de divergence. C'est vraiment aujourd'hui un club qui se veut comme une enceinte collective de dialogue, mais aussi de coopération sur un certain nombre de sujets. Donc, il n'y a pas d'institution des BRICS, mis à part la nouvelle banque de développement, qui est plutôt consensuelle d'ailleurs. Mais à part ça, il n'y a pas des institutions ou des décisions qui engagent les différents pays sur les questions régaliennes de la sécurité, de la diplomatie, etc. Donc, c'est aussi là la force de ce groupement, c'est sa flexibilité et sa capacité à évoluer.
Avec une ambition, c'est de mettre en évidence une dynamique changeante du pouvoir mondial. Les économies émergentes cherchent à se faire entendre davantage sur la scène internationale.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a des revendications de réforme des institutions de Bretton Woods, notamment du FMI. Et ce n'est pas un hasard si ce sommet intervient au moment où se déroulent d'ailleurs les assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale, comme une sorte de pied de nez, parce qu'il s'agit soit de réformer le système existant qui est à bout de souffle, selon le point de vue des BRICS, soit de le remplacer par un système alternatif. La nature ayant horreur du vide, c'est plutôt vers cette option que semblent aujourd'hui se diriger ces pays.
Merci beaucoup, Alexandre Kateb. Vous êtes économiste, auteur du livre « Les nouvelles puissances mondiales, pourquoi les BRICS changent le monde ?» Livre publié aux éditions Ellipse. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de RFI Entretien. Vous retrouvez naturellement sur notre site rfi.fr. Il est 14h26 ici à Paris.
RFI Midi.
Autre sommet, ça se passe à Cali, en Colombie, avec des discussions qui vont donc reprendre dans le cadre de la COP16 sur la biodiversité. Jusqu'au 1er novembre, les gouvernements du monde entier se penchent sur l'état des espèces végétales et animales de tous les continents. Et il y a urgence, hein, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a rappelé d'ailleurs hier à l'ouverture de l'événement. « Nous ne sommes pas sur la bonne voie », a-t-il martelé. Illustration au Japon, où l'inquiétude est de mise, certaines espèces se raréfient à vue d'œil. Autre signe de cette biodiversité malmenée, des animaux sauvages en viennent à s'aventurer dans les grandes villes. À Nagoya, par exemple, ou même dans la capitale. Reportage à Tokyo, signé Bruno Duval.
À Tokyo, la nuit, on croise de plus en plus souvent des civettes ou chats musqués, ces petits mammifères qui ressemblent un peu à des fouines et qu'on n'avait jamais vus en ville auparavant. Encore plus improbable, dans la capitale, désormais, on aperçoit des singes, y compris dans les arrondissements centraux très peuplés, comme Itabashi. Ces deux habitants n'en reviennent toujours pas d'avoir entrevu de tels macaques.
Il s'épouillait tranquillement, juché sur un muret. J'en étais médusé. Ensuite, il a escaladé un arbre, puis de là, a sauté sur le toit d'une maisonnette et il s'en est allé.
Deux ou trois macaques couraient après des enfants qui rentraient de l'école. Les pauvres petits, ils étaient complètement terrorisés.
Pour les spécialistes, ces animaux sauvages se hasardent en ville en raison de l'urbanisation à outrance des zones semi-rurales jouxtant le centre de la capitale, qui est si densément peuplé et bâti que, pour accueillir de nouveaux habitants, les campagnes ne cessant de se dépeupler au Japon, il faut à présent et impérativement bétonner les faubourgs, raser des forêts par exemple, où ces singes vivaient. Résultat, faute de lieux d'habitat, ils migrent en ville. Moins spectaculaire, mais selon les experts plus inquiétant, à en croire le dernier recensement en date du ministère de l'Environnement, une quinzaine d'espèces d'oiseaux sont menacées à terme de disparition dans l'archipel. Parmi elles figurent des espèces jadis aussi courantes que le moineau, la bergeronnette ou la bécassine par exemple. En cause, la réduction des zones humides dues au réchauffement climatique et l'urbanisation des forêts, des prairies ou des bocages où ces espèces vivaient. Pour cet ornithologue, deux autres facteurs accélèrent la raréfaction des oiseaux.
En ville, ils ont de moins en moins d'endroits où nicher. Les hirondelles, par exemple, construisent leurs nids sous les avant-toits, sous les corniches ou dans des interstices entre les tuiles. Mais énormément de maisons individuelles ont cédé la place à des immeubles pleins d'appartements qui ne leur offrent pas une telle possibilité. Et puis, en milieu rural, ces oiseaux ne trouvent plus de quoi se nourrir en raison de la généralisation de l'usage des pesticides. On trouve de moins en moins d'insectes et de vers de terre. Et à terme, cela va poser de gros problèmes aux agriculteurs. Moins d'oiseaux, cela veut dire plus d'insectes qui prolifèrent, donc la nécessité d'utiliser encore plus d'insecticides. Bref, un cercle vicieux sans fin et extrêmement nuisible à l'environnement.
Une trentaine d'espèces de papillons sont également menacées de disparition au Japon. Faute d'alimentation suffisante, la transformation d'espaces verts en zones d'habitat réduisant le nombre et la variété de plantes à butiner. À cet égard, alertent les experts, l'extinction redoutée de ces insectes pollinisateurs essentiels aurait des conséquences catastrophiques sur la biodiversité végétale. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.